Bon, donc aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir écouter Marie Capucine de Merci qui va nous parler de la vocation de Vierge consacrée. Donc, vous êtes Vierge consacrée du diocèse de Paris depuis 18 mois maintenant.
Voilà, pas tout à fait encore, mais presque 18 mois. Voilà.
Merci.
Je pense que... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà entendu parler des vierges consacrées ou pas du tout? Un peu quand même. Ah bah quand même, ouais, j'en ai quelques-uns. Les vierges consacrées, c'est la première forme de vie consacrée dans l'Église. Dès les premiers temps de l'Église, il y avait des femmes qui étaient consacrées à Dieu et qui étaient consacrées à Dieu pour le service de l'Église. Et puis, déjà dans l'évangile de Saint-Luc, on voit que Jésus est entouré de ses disciples, enfin des 12. Et puis en plus, il y a autour d'eux des femmes, et on dit d'elles qu'elles servaient finalement l'Église naissante. Et je pense que c'est peut-être là qu'on voit dans l'Évangile peut-être une présence des premières peut-être vierges consacrées. Voilà. Et, sinon, les choses se sont organisées à partir du 3e siècle. Il y avait des vierges consacrées qui étaient présentes dans tous les... Là où l'Église s'était répandue, des vierges consacrées étaient au service de l'Église un peu partout. Et puis ensuite, les choses se sont organisées à Rome, au 4e siècle. Et la première vierge consacrée à Rome, c'est Agnès, martyr, Sainte Agnès. Donc finalement, ça c'est des noms qui nous parlent tous. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'autres vierges consacrées. Et donc, les vierges consacrées, elles avaient une vie très simple. Elles vivaient encore dans leur famille. Et elles dépendaient de l'évêque du lieu où elles vivaient. Ça, c'est un peu l'histoire. La prière de consécration qui est utilisée aujourd'hui dans le rituel, en fait, elle a été écrite probablement au moment de... sous le je sais pas si on peut dire le règne, enfin en tout cas sous sous Saint Léon le Grand. Et voilà. Il y avait des vierges consacrées, en gros...
5e siècle, hein, sérieux.
Ça c'est le 5e siècle, oui.
C'est très antique.
Très antique. Et puis ensuite, jusqu'au 9e siècle, il y a des vierges consacrées qui vivent dans le monde. Et puis au 9e siècle, il n'y en a presque plus. Et les vierges consacrées persistent, enfin il y a encore des vierges consacrées dans l'Église, mais ce sont des moniales. Dans beaucoup d'abbayes, par exemple, je pense que vous connaissez des abbayes comme Solesmes, ou même peut-être certains parmi vous sont allés réviser à Jouarre. À Jouarre, les moniales sont vierges consacrées, enfin pas toutes. À Jouarre, elles ont le choix entre recevoir la consécration des vierges pour recevoir la consécration religieuse. Alors la différence entre les deux, c'est quand on est vierge consacrée, qu'on reçoit la consécration des vierges, l'appel que l'on reçoit, c'est celui de devenir épouse du Christ. Donc les moniales qui sont vierges consacrées, elles disent « Moi je reconnais que ce qui est premier pour moi, c'est de vouloir suivre le Christ en étant son épouse. » Et puis ensuite, ce qui va être second, et c'est pour ça que je vis dans une abbaye, je choisis cette abbaye, ce qui va être second, c'est de le vivre selon la règle de Saint-Benoît, par exemple. Alors que les femmes qui reçoivent la consécration religieuse, elles vont dire, ce qui est premier pour moi, c'est de vouloir suivre le Christ suivant la règle de Saint-Benoît. Et comme conséquence, la conséquence de ça, c'est le célibat pour le royaume. Voilà. Ça, c'est une petite différence. Pour moi, c'est important. Je ne sais pas si vous sentez un peu ce que ça peut... Voilà, la différence que ça peut avoir. Je me suis demandé comment dans une communauté on pouvait avoir les deux et que ce soit harmonieux. Et visiblement, ça se vit très bien. Mais je trouve ça étonnant. Voilà. Et donc, c'est grâce aux moniales que les vierges consacrées ont toujours été présentes dans l'Église. Et puis, en 1927, la congrégation pour les congrégations religieuses a interdit qu'il y ait des vierges consacrées qui vivent dans le monde. Donc c'est quelque chose qui était présent depuis le début de l'Église, et en fait, en 1927, c'est interdit. Et donc, il n'y a plus que les moniales qui peuvent être vierges consacrées. Et ça a été la possibilité pour des femmes d'être vierges consacrées et de vivre dans le monde a été de nouveau permis au moment du Concile Vatican II. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 50 ans. Et il y a 2 ans, il devait y avoir à Rome un grand rassemblement de toutes les vierges consacrées pour justement célébrer cette restauration de l'ordre. Et en fait, ça a été annulé à cause du Covid, donc c'est une grande déception. Voilà. Voilà. Dans chaque diocèse, il y a 2 ordres, l'ordre des prêtres et l'ordre des vierges. Monseigneur Petit disait qu'il avait 2 bras. Son bras de prédilection, c'était son bras droit, c'était le clergé. Mais qu'il avait quand même un autre bras et qui devrait être un deuxième moyen d'action pour lui, avec les vierges consacrées. Je ne sais pas si théologiquement c'est très vrai, mais en tout cas, il y a quelque chose de ça dans la vie d'un diocèse. Voilà. On n'est pas identifié, on n'est pas identifiable, mais pourtant on est au service de l'Église. On reçoit la consécration que pour le service de l'Église. C'est pas pour notre gloire personnelle, ou même si ça participe à notre chemin de santé, on espère. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vierge consacrée ? Je vais essayer de regarder un peu ce que j'avais prévu de vous dire. Simplement, la première chose, du coup, en vous disant que dans certaines abbayes, on peut recevoir la consécration des vierges ou la consécration religieuse. En fait, en vous disant ça, vous comprenez que les vierges consacrées, elles n'ont pas une spiritualité particulière, dans le sens où elles n'ont pas, un fondateur qui donne une règle de vie. La règle de vie, c'est l'évangile, comme pour tout baptisé. D'ailleurs, c'est pas un sacrement supplémentaire, c'est une façon de déployer la grâce du baptême. Par le baptême, on est tous consacrés. Je sais pas si vous avez conscience de ça, en fait, que vous êtes consacrés à Dieu par votre baptême. Je suis pas sûre qu'on le dise beaucoup, mais c'est quand même vachement important. Et c'est ça qui fait aussi l'exigence de la vie chrétienne. C'est-à-dire que si on est consacré à Dieu par notre baptême, on a une dignité particulière et donc il faut répondre de cette dignité par toute notre vie. Et les vierges consacrées, ce sont des femmes finalement qui entendent un appel à vivre la radicalité de cette consécration baptismale et dans une consécration qui est manifestée dans une liturgie avec un rite particulier. Je vais rentrer là-dedans. Et voilà. Et donc, on devient signe de quelque chose. C'est toujours comme ça dans l'Église. Les époux sont signe de quelque chose pour l'ensemble. Les consacrés sont signe de quelque chose pour l'ensemble de l'Église. Et ainsi, en fait, on peut, à travers la vie des uns des autres, lorsqu'on perçoit de la vie des uns des autres, on comprend mieux ce qu'on est tous appelés à vivre et le chemin qui se dessine pour chacun. Alors nous, comme vierges consacrées, il y a une analogie entre la vierge consacrée et l'Église dans son rapport avec le Christ. On dit que le Christ est l'époux de l'Église ou l'Église est l'épouse du Christ. Eh bien, les vierges consacrées, on est appelé à être signe de l'Église épouse du Christ. Ce que nous, on vit sur Terre, dans cette sponsalité de notre vocation baptismale, en fait, tous... on le vivra au ciel. On sera tous complètement épousés par le Christ, complètement unis au Christ au ciel. Alors pour nous, du coup, on le vit un peu comme une anticipation de ça. Et ça ne nous empêche pas d'être vraiment sur Terre quand même. Donc il faut tenir le fait qu'on soit engagé dans le monde et en même temps qu'on soit déjà un peu dans cette... comment dire ça, mais on est un peu dans le temps à venir, le temps qu'on espère tous. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis surtout. Du coup voilà, c'est vraiment un déploiement de la grâce baptismale. Et c'est une vocation diocésaine. Alors, on est consacré par l'évêque, parce que l'évêque, il représente sacramentellement le Christ. Et donc si nous sommes appelés à être épouse du Christ, alors c'est lui qui nous consacre. On peut dire qu'on est consacré parce que le Christ nous a choisi, enfin parce que Dieu nous a choisi. Il s'est choisi quelqu'un pour se le réserver quelque part. Mais on est aussi consacré par l'évêque. Et quelque part, il y a quelque chose de l'Église qui nous consacre aussi. C'est toujours l'Église qui appelle. Et voilà, il y a un peu ces trois modalités de consécration qui sont vécues dans ce qu'on vit, qu'on reçoit. On dit que la consécration, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu donc que Dieu se fait à lui-même, puisque c'est lui qui choisit, c'est lui qui consacre. Moi, je peux dire que je pense que c'est un grand don de Dieu pour moi. Et je crois aussi, en voyant d'autres personnes consacrées, que c'est un don de Dieu pour l'Église. Voilà. Nous sommes voués à la prière. Ça, c'est la mission commune de toutes les vierges consacrées. C'est la seule mission, d'ailleurs, qu'on reçoit de notre évêque au moment de la consécration. Il nous dit « Ne cessez jamais de prier, de louer Dieu et d'intercéder pour le salut du monde. » Ça, c'est vraiment... quelque part, c'est... Si on devait dire « Pourquoi est-ce que tu as reçu la consécration ?» Bah pour ça. Voilà. Et puis, on est appelé à vivre une vie de pénitence, à vivre un service apostolique et à vivre au service de nos frères. Alors, comment ça se vit concrètement ? Ça se vit très différemment selon les diocèses. Il y a des vierges consacrées dans tous les diocèses du monde. À Paris, on est 80. Et en fait, ça fait 10 ans, j'entends qu'on est 80. Donc je ne sais pas très bien si c'est toujours le cas ou pas.
Il faut se méfier de ces chiffres. Quand j'étais séminariste, on dit on est 120 aussi. On est 120 pour... En fait, on est 60.
Alors, je pense qu'on ne doit pas être trop loin quand même des chiffres entre celles qui meurent, celles qui arrivent.
Mais éternelle. Ça, on n'en a pas. Plus que 60.
Voilà, on se réunit de temps en temps. Il y a une rencontre avec l'évêque tous les ans, normalement. Voilà, en France, il y a, je crois, 500 ou 600 vierges consacrées. Et dans le monde, plusieurs milliers. Et en fait, il y a de plus en plus de vierges consacrées en Afrique. C'est eux qui... Je pense que bientôt, on aura beaucoup plus de prêtres et de religieux, de vierges consacrées en Afrique. Et c'est eux qui viendront nous aider à grandir, à retrouver une église plus vivante, tout ça peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà. Et on a quatre insignes qu'on reçoit le jour de notre consécration. On reçoit d'abord un voile, qui est signe de notre mise à part. J'ai peut-être trouvé que c'est un peu étonnant, parce qu'on est mis à part, et en même temps, on vit vraiment au milieu du monde. Donc c'est un peu quelque chose de délicat à tenir. On reçoit un anneau, parce qu'on est épouse du Christ, donc c'est voilà, le signe de notre union au Christ. On reçoit le bréviaire, le livre de la liturgie des heures, parce qu'on est tenu de le dire. Et on reçoit un cierge, une lumière, avec cet appel « Veillez, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour où l'époux viendra ». Donc si je suis épouse du Christ, je l'attends. Enfin, il vaut mieux. Ouais, voilà. Et voilà, comment on devient vierge consacrée ? Eh bien, en fait, les histoires des unes et des autres sont toujours un peu différentes. Pour ma part, c'est qu'un jour, j'ai compris que Dieu n'aimait pas l'humanité comme un troupeau, mais que j'étais aimée de Dieu d'une façon unique, comme chacun d'entre nous, en fait. Et j'étais une toute petite fille, et pourtant, je me suis dit intérieurement, si Dieu m'aime, alors je dois répondre. Je ne peux pas rester indifférente, et donc, quelle va être ma réponse d'amour à Dieu ? Et donc, dans mon cœur de toute petite fille, je me suis dit, en fait, il y a un peu deux options dans la vie, le mariage ou la vie religieuse. Et je trouvais que c'était des très belles façons, en fait, de répondre à l'amour de Dieu, ces deux options. Et donc, je me disais, voilà, mais en fait, il faut que l'une ou l'autre de ces réponses, ce soit vraiment pour la gloire de Dieu, enfin, pour que Dieu soit aimé, quoi. Voilà, et puis ensuite il y a eu, ça c'était assez paisible en fait, c'est assez tranquille. Et puis un jour en fait une fille de ma classe a été baptisée quand j'étais en seconde. Et ce jour-là je me suis dit, mais est-ce que tu as conscience que la grâce de ton baptême doit se déployer dans ta vie? Et donc là je me suis un peu demandé comment ça allait se présenter. Et qu'en fait je me suis dit que c'était quand même sérieux en fait cette histoire de baptême. On n'avait pas forcément conscience, mais qu'il y avait quand même quelque chose d'immense qui nous était donné et qu'il fallait en vivre vraiment. Et à ce moment-là, la question de la vie consacrée est revenue pour moi de façon assez, assez forte. Et en même temps, à ce moment-là, c'était plus du tout paisible, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit tout de suite, mais en fait, il y a quelque chose de... comment le Seigneur peut me choisir pour, alors que je suis un peu comme tout le monde, je veux marcher à sa suite, mais pourtant je tombe souvent. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, je pense que ce qui m'a libérée sur cette question-là, c'est de me dire que le mariage, c'est très audacieux, en fait. Aujourd'hui, pouvoir dire « je te choisis pour toujours », c'est pas si évident que ça. Et donc, en fait, c'est pas moins audacieux le mariage que la vie consacrée. Voilà, la deuxième chose, c'est que pour moi, c'était beaucoup plus facile d'envisager la vie religieuse, parce qu'en fait, c'est quand même, il y a une communauté, un lieu, tout ça, je trouve ça très très bien. Et en fait, sans vraiment chercher une communauté ni rien, enfin, je faisais des retraites tous les ans, un peu comme ça, voilà. Et en fait, le cinquième jour, j'avais l'impression d'étouffer, d'être comme un petit soldat dans une éprouvette et de chercher mon air. Donc je me suis dit, ça, jamais. Je ne pourrais jamais, jamais, jamais faire ça. Et puis j'avais un regard très très négatif et très abîmé sur la vie consacrée dans le monde, en particulier parce que je trouvais que quand je voyais des laïcs consacrés, je trouvais toujours que elles avaient un peu l'air du ravi. Et donc je me disais, j'ai pas très envie de ressembler à ça. Voilà. Et puis en fait, je rentrais d'un week-end even, on était à Saint-Étienne-du-Mont, et on arrive pour la messe du dimanche soir, en fin de week-end. Et là, en fait, il y avait une jeune femme qui recevait la consécration des vierges. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'ordre des vierges, en fait j'ai découvert par le rituel. Ça m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait avant de découvrir des visages, j'ai découvert ce que c'était qu'une vierge consacrée avec la prière de consécration par exemple. Voilà. Et en même temps, en fait, je me souviens, en face de moi, il y avait toutes les vierges consacrées, et je ne les trouvais pas... Vous voyez ? C'était un petit peu la caricature quand même, donc je me disais, il y a un espèce de truc, c'est un peu bizarre, voilà. Et puis, ce que je trouvais très difficile, c'est que je voulais pas qu'on contraigne ma liberté. Donc je voulais bien me poser plein de questions, je voulais bien répondre à plein de questions, mais je voulais ni qu'on me dise, non mais tu ne viendras jamais, les questions que tu te poses, ce n'est pas des vraies questions, ni qu'on me dise, ah oui, justement, on en a besoin, donc c'est très très bien, puisque tu poses la question, on va te conduire vers là. Voilà, donc ça c'était un peu les deux points qui étaient délicats pour moi. Donc si je peux dire une chose, c'est qu'il y a quand même un point important, c'est de trouver une personne avec qui on peut en parler, une personne avec qui on est suffisamment en confiance, et on sait que cette personne-là respectera voilà, notre liberté. Et puis ensuite, d'essayer de trouver des moyens pour répondre. Alors pour moi, ce qui était important, c'était que j'avais besoin de... Enfin, puisque connaissance et amour grandissent ensemble, il fallait que je connaisse davantage Dieu et l'Église, quoi. Et donc j'avais besoin de me former. Donc on m'a envoyée au Bernardin à la formation des responsables. Et je crois que ça a été un élément important pour moi, parce que à la formation des responsables, on vit aussi une expérience ecclésiale, c'est-à-dire qu'on est formé avec des gens de plein d'états de vie différents. Et c'est vraiment une formation qui a pour but de former des gens qui pourront servir dans les paroisses, dans le diocèse. Et donc pour moi, ça a été aussi un lieu dans lequel j'ai vraiment fait une expérience d'église. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à choisir le diocèse de Paris aussi comme vierge consacrée. Je n'ai pas envie de choisir un peu... Puisque je suis là, je reste là, quoi. Vous voyez ? Voilà, et puis après, voilà, après une fois que tout ça avance, eh ben, en fait, il faut intégrer un groupe de préparation à la consécration. Alors pour moi, ça a été l'enfer. Voilà. Je pense que, en fait, j'en parlais l'autre jour avec un prêtre qui m'a dit, mais en fait, tu sais, je crois que finalement, l'Église est toujours, elle sera jamais à la hauteur, en fait, pour accompagner un discernement. Et en fait, c'est libérant de se dire ça, Dire que... Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas si vous avez trouvé que c'était très bizarre de dire ça. Mais en fait, on ne sait jamais... Enfin, c'est toujours un chemin un peu compliqué, en fait. Un chemin de discernement. Et l'Église, ben, en fait, c'est nous. Donc, on est tous un peu... On fait ce qu'on peut. Et en fait... Je pense que je suis pas sûre que je serai un jour dans l'action de grâce pour ce que j'ai reçu à ce moment-là, mais quand même, en fait, il m'était donné des choses. Enfin, voilà. Moi, ce qui a été important, j'avais pas du tout envie de... Enfin, en fait, il y a un lieu déjà où on peut se retrouver pour se former. Après, on découvre des visages, et pour moi, c'était important de découvrir plein de visages de vierges consacrées. Parce que comme on vit toutes dans le monde, on n'est pas, on se ressemble pas du tout en fait. Entre une vierge consacrée qui est prof au Bernardin, une vierge consacrée qui est policière, une autre qui est pharmacien comme moi, ou voilà, c'est des visages très différents. Et en fait, il y a eu toute une époque où les vierges consacrées, en fait, recevaient la consécration très très, enfin, elles avaient quand même déjà pas mal avancé, elles avaient au moins 50, 60 ans. Il y a eu beaucoup de vierges consacrées qui ont reçu la consécration au moment de leur retraite. Et donc ça donne une coloration un peu différente à leur consécration. Non mais c'est vrai en fait, c'est pas moins beau. Hein, franchement, il y a des gens qui se marient tard, c'est pas moins beau. Mais de fait, ça donne pas la même coloration à ce qu'on vit. Et moi, ça m'a beaucoup aidée justement de découvrir plein de visages et pas de me dire « il faudra que je ressemble à ça ». Vous voyez. Voilà. Puis ça m'a aidé aussi de me dire que notre règle de vie, c'est l'Évangile. Et donc, en fait, c'est très exigeant et en même temps, c'est très vaste. Et comment est-ce qu'on est, est fidèle? Comment est-ce qu'on est... En fait, c'est facile de faire son petit bonhomme de chemin et puis d'être un peu éloigné de finalement ce pourquoi on a reçu la consécration. Et donc, en découvrant tous ces visages, j'ai découvert qu'il y avait mille et une façons de vivre notre consécration, mais que ce qui était commun à toutes, c'était que elles aimaient l'Église, vraiment. Ce que j'ai vu, c'est que, en fait, je crois que c'est essentiel de vivre au service de l'Église en étant très concrètement engagé dans nos paroisses, dans un service diocésain, voilà. Mais que quand on perd ce contact avec la réalité de l'Église, qui n'est pas seulement mon petit moi dans mon cœur, voilà, en fait, très vite, ça perd beaucoup de sens, notre consécration. Voilà. Donc je me suis dit que c'était des points qu'il fallait prendre au sérieux. Il faut toujours être attentif à la façon dont l'Esprit-Saint nous parle. Et alors pour ça, on ne peut pas rester seul, parce que sinon on peut vite se faire sa petite idée de ce que l'Esprit-Saint nous inspire. Et donc l'accompagnement spirituel est très très important. Et j'avais noté un quatrième point, je crois. Et vouloir à tout prix être au service de la communion de l'Église. Voilà, pour moi c'était des points très importants. Comme vierge consacrée, et ça je l'ai découvert en voyant tous ces visages de vierge consacrée. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre, mais vous avez peut-être des questions. J'espère que ça fait des questions. Ouais.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez un peu l'histoire des vierges consacrées au début. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi le pape, alors je ne sais pas si c'était en 1926, c'était Pion, donc je ne sais pas trop, mais a décidé de s'interdire.
En fait.
Pion, je pense.
Oui.
En fait, ce qui s'est passé. C'est que à partir du 9e siècle, en gros, les vierges consacrées ne pouvant pas vivre seules, elles ne pouvaient pas vivre une vie solitaire, elles étaient forcément dans leur famille. Et donc il y a un moment, en fait, c'est devenu vraiment compliqué, donc il y en avait très très peu qui pouvaient continuer à vivre cette vie-là. Clairement, elles étaient un peu en danger. Aujourd'hui, on laisse dans les monastères, il y a des grilles qui les protègent des mondanités. Il y a une époque où ça les protégeait aussi un peu du monde extérieur. Ben, y a quelque chose de ça. Chez les vierges consacrées, elles vivaient dans leur famille parce que sinon, c'était trop compliqué pour elles. Enfin, c'était intenable. Et comme il n'y en avait plus, et que c'en était arrivé à une époque où probablement on avait du mal aussi. Il y a un évêque qui m'a dit un jour qu'on ne pouvait pas recevoir la consécration des vierges trop jeunes, parce que c'était difficile pour un évêque de voir si une jeune femme avait vraiment une vie, si elle vivait déjà un célibat heureux, quoi. Mais en fait, il y a peut-être un peu de ça aussi. Je pense que c'était une erreur. D'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, finalement, cette rupture.
Peut-être qu'il se disait... Enfin, je n'étais même pas au courant de ça. Mais il disait, au fond, avec la vie religieuse, on a déjà tout. Peut-être qu'on avait perdu de vue aussi. Du fait qu'il y en avait
peu,
tout le monde, on disait, mais...
Il y en avait peu, ouais.
Après tout, c'était peut-être l'origine de la consécration. Mais après, l'histoire a fait qu'il y avait des moines, il y a eu les ordres imposés. Enfin, il y a des religieuses contemplatives.
Oui, mais l'interdire, c'est
assez, chose, il y a assez d'offres. Je me dis peut-être qu'on n'avait pas perçu le charisme. Non, mais c'est un peu comme la vie. C'est aussi lié à la place de la sainteté des laïcs aussi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se disait, mais après tout, quelqu'un qui veut se donner à une jeune femme qui veut se donner à Dieu, bah, très bien, mais bon, elle a l'embarras du choix. Elle peut être bénédicte, elle peut être carmélite.
Surtout pour les femmes, oui.
Pourquoi faire un truc en plus, oui, ouais. Je me dis, peut-être, je ne sais pas pourquoi on l'a interdit, mais on le désir, ça, au fond, ça n'a peut-être plus tellement de sens. Ouais, je pense pas que c'est une hostilité, j'imagine.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est une interdiction. Je trouve ça fort, en fait.
Ouais.
C'est pas comme si il s'était dit ça va mourir de lui-même.
Ah, ouais.
Voyez.
Oui, c'est vrai que l'interdiction, c'est encore.
C'est encore autre chose.
Non, je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était surtout le contexte, en fait, qui a fait que.
Donc c'était notamment aussi un problème, un manque d'indépendance qui faisait qu'à partir du 9e siècle, c'était difficile pour les vierges consacrées de rester toutes seules.
Jusqu'au 9e siècle, elles vivaient dans leur famille, ça posait aucun problème. Oui. Mais ensuite, je pense que les choses ont évolué, et c'est-à-dire que les gens ne vivaient plus en petit cocon familial. Donc je sais pas, imagine si t'as une petite sœur, mais imagine si ta petite sœur devenait vierge consacrée, et toi tu te maries, il faut que tu te farcisses ta petite sœur tout le temps dans les pattes. Enfin, il y a quelque chose de ça, en fait. Il y a quelque chose de ça, je pense que c'est compliqué, en fait. Et... Bah, c'est un peu ça, en fait. Et donc, en fait, il apparaît un moment où c'était ingérable. Donc, en fait, elle vivait seule. Et c'était en même temps pas possible non plus. Je pense que ça a été beaucoup ça, en fait.
Et donc, aujourd'hui, les vierges consacrées travaillent, vous
Oui, je suis pharmacien, voilà.
Donc, là, ça donne un nouveau sens, un peu, la consécration des vierges, justement, parce que il y a le travail.
Ce qui n'est pas premier, enfin, mon travail, il est ordonné à ma consécration. C'est-à-dire que si mon travail prend toute la place. Alors je suis plus fidèle à ce que je suis, finalement, parce que ma consécration, ça touche quelque chose de mon être. Comment dire ça ? Tu vois ou pas un peu ?
Oui, non, mais je sais que le travail peut pas être premier.
Le travail n'est pas premier. Et donc aujourd'hui, les vierges consacrées, elles vivent seules. C'est permis de se regrouper, et donc il y a des diocèses dans lesquels elles vivent une vie communautaire.
Bah, je pense aussi que tout bêtement, dans ce que vous disiez, c'est qu'il y a une évolution sociale, il y a encore peut-être un siècle. Une femme, je ne sais pas, 30 ans seule, ça faisait bizarre de vous parler. Vous dites même, mais c'est peut-être une femme de mauvaise vie, enfin, comment ça se fait qu'elle soit seule.
Chez les orientaux, c'est encore le cas.
Aujourd'hui, et même, par exemple, pour d'avoir un emploi rémunéré, il n'y avait pas tellement de trucs possibles pour les femmes, il y avait peut-être prof, médecin, enfin. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus facile d'assurer. Non, mais il faut bien manger. Donc tu peux avoir.
Ah oui, bah c'est sûr que mon travail, si je travaille pas.
T'as pas de métier possible. C'est aussi bête que ça. Je pense que l'évolution, la place de la femme dans la société a rendu de nouveau possible, mais dans un autre contexte, parce qu'il n'y a plus le côté c'est ta famille qui te protège.
Ouais. Et puis je pense que.
C'est à la fois ancien et nouveau, finalement, ce qui s'est passé avec Vatican II.
Ouais.
On reprend un vieux truc, mais c'est un visage assez différent, finalement.
Ah, c'est différent,
ouais. Vous écoutez, moi je.
Oui, c'est ça.
J'ignorais tout ce que vous disiez, donc je découvre, mais.
Et est-ce que c'est un peu comme à l'Opus Dei, les surnuméraires ? C'est ni des religieuses, parce qu'elles ont un travail, mais c'est des vierges consacrées.
C'est pas des vierges consacrées, mais elles font peut-être un vœu. Alors oui, ça, c'est un point. Alors, quand on est consacré. En fait, moi, je dis à l'évêque, en fait, la phrase que je dis à l'évêque le jour de ma consécration, après, il me pose plusieurs questions, est-ce que vous voulez persévérer toute votre vie dans la chasteté, etc. Et ensuite, moi, je vais me mettre à genoux devant l'évêque, je mets mes mains dans ses mains, donc ça, c'est le seul signe d'obéissance que je ne dis pas, je lui promets obéissance, je mets mes mains dans ses mains et je lui dis, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Et ensuite, donc là, ça c'est le propos que je dis. Et ensuite, c'est lui qui me consacre. Donc en fait, quelque part, le mouvement, il vient du haut, quoi. Alors quand on fait des vœux, on dit « je promets ceci, cela ». Et donc le mouvement, il vient de moi. Et donc c'est la différence.
C'est vraiment différent.
C'est vraiment différent, ouais.
C'est comme vous disiez, c'est un peu l'équivalent féminin du sacerdoce, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein.
Oui, alors en fait, mais vous avez déjà vu une consécration ou pas? Jamais, peut-être.
Non, je crois pas.
Voilà. Vous auriez dû venir le 20 septembre, non, c'était moi, vraiment très très bien.
Voilà.
Et en fait, c'est très étonnant, mais le rite de consécration ressemble beaucoup à l'ordination diaconale. Et quand ça diffère, en fait, ça ressemble un peu à un mariage. C'est assez étonnant. Mais en fait, c'est les deux. Enfin voilà, on est épouse du Christ et en même temps on est consacré. Et donc il y a un peu les deux qui sont.
Tout le monde voit un peu la différence qu'il y a entre les deux. C'est, vous voyez, quand on est prêtre, par exemple, enfin ça, quand on est au séminaire, on nous assigne un mouleur de journal avec ça. Nous, en fait, on se rend disponible, mais à la limite de dire je sens que Dieu m'appelle. Ça n'a presque pas de sens de dire je sens que Dieu m'appelle. C'est quand même, mais normalement, c'est l'Église qui appelle. Vous voyez ça? À tel point, comme dans l'Antiquité, des fois, on demandait à peine l'avis du gars qui était ordonné. Et contrairement au mariage, par exemple, le fait de. Je crois pas qu'il y a notion de vice de consentement dans le sacerdoce. C'est vraiment l'Église qui choisit quelqu'un. Non, mais théologiquement, c'est important de réaliser
c'est important,
ça.
Mais oui.
Alors que dans la vie monastique, la vie religieuse, c'est pas moins beau, hein, c'est juste que c'est une autre manière de. Je pense qu'on est plus dans l'idée, mais. Comment je veux vivre mon baptême, comment je veux. Et en fait, c'est beaucoup plus. On a soi-même l'initiative à tel point d'ailleurs qu'on va dire bon, ben, est-ce que je veux plutôt être apostolique, est-ce que je veux être contemplatif. Alors parfois, je trouve que c'est vrai qu'on a un langage, quand on parle des vocations, on a un langage qui nivelle les choses, parce qu'on dit tous ouais, il faut discerner ta vocation. Exactement de la même manière, si c'est entrer au séminaire, être bénédictin, être dominicain, vierge consacrée. Mais en fait, théologiquement, c'est pas pareil. Et ce que j'avais réalisé, ça pour les prêtres, j'avais réalisé, mais en vous entendant, je me dis, il y a un petit peu le même mouvement de choix de l'Église qui précède, j'irais presque, le désir personnel. Il faut que ça corresponde quand même.
Il faut que ça corresponde, hein. Il faut quand même dire quelque chose. Si je ne le dis pas, l'évêque ne peut rien faire.
Regardez, c'est les synoptiques et Saint Jean, si vous voulez.
Ouais.
Les premiers disciples, quand on va dire Saint-Marc. Jésus, il dit toi là-bas, quoi, en fait. Hein. Puis le gars, il est en train de réparer son filet, il dit non, mais laisse tomber ton filet. Alors que chez Saint Jean, c'est plus. Donc, ça serait la démarche un peu l'Église choisie de son autorité. On peut dire non, mais en face. Alors que Saint Jean, c'est plutôt où demeures-tu, enfin, et puis on parle avec l'autre, viens et vois, donc c'est plus par en bas.
Bah, en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu peux pas ne pas. Enfin, si t'es marié et que tu parles pas à ton mari, en fait, ça marche pas. Mais en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que le Christ, c'est. Enfin, je l'ai choisi sans partage. Donc, c'est lui qui est premier dans ma vie. Donc, oui, je prie parce que c'est nécessaire et c'est vital pour moi dans ma relation au Christ. Sinon, je meurs, en fait. Enfin, la relation meurt, sinon. Et par contre, je suis tenue de dire l'office, donc les différents,
comme
les prêtres en fait, voilà. Et la messe, bah, je suis pas obligée d'aller à la messe, mais enfin c'est le lieu où je reçois la vie quand même. Donc c'est le lieu de l'union du Christ et de l'Église, c'est le lieu de et donc c'est un lieu vital pour moi. De fait, comme pharmacien, je travaille parfois de 8h jusqu'à 21h. Donc quand c'est comme ça, je ne peux pas aller à la messe. Ben en fait, c'est un sacrifice pour moi de ne pas pouvoir aller à la messe. Donc je l'offre. Et voilà. Et sinon, quand je peux aller à la messe, je fais tout ce que je peux pour pouvoir y aller. Ouais.
En fait, ta question, Marie, c'était plutôt dans quel point c'est fixé canoniquement.
Oui, c'est
alors, ce qui est fixé canoniquement, c'est la liturgie des heures.
Il y a peu de choses, j'ai l'impression.
Ce qui est fixé canoniquement, c'est la liturgie des heures. Mais en fait, c'est grave. Hein, parce qu'en fait, si je ne dis pas l'office, c'est une infidélité.
Et du coup, vous dites seul l'office?
Le plus souvent, oui. Mais quand je retrouve d'autres vierges consacrées, on fait toujours très attention de pouvoir dire certains offices ensemble. Il m'arrive de le dire avec des séminaristes avec qui je suis en cours, ou il m'arrive de.
Vous avez le temps dans vos journées de travail de dire tout office ?
C'est une petite organisation, ouais. Mais ça vient pas du jour au lendemain, en fait. C'est comme pour les prêtres.
C'est compliqué,
mais en fait, voilà. En fait, une fois qu'on sait, enfin qu'on, en fait, que comme ça d'extérieur, ça paraît un peu compliqué. Finalement, on y arrive. Il faut être un peu vigilant. Il faut être même très vigilant. Et voilà. Et il faut jamais se dire, ça y est, c'est gagné. Ça marche toujours. Parce que là, sinon, ça marche plus. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Moi, comme pharmacien, en fait, je travaillais plus dans une pharmacie, toujours la même. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une pharmacie. Et maintenant, en fait, je remplace des titulaires, donc des propriétaires de pharmacie. Donc, de fait, je ne suis pas tous les jours au même endroit. Et je ne travaille même pas tous les jours. Donc, c'est sûr que quand je ne travaille pas, je trouve ça hyper facile. Quand je travaille, c'est sûr que si je n'ai pas de pause à l'heure du déjeuner, c'est vachement plus difficile de dire le milieu du jour, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est très simple. Voilà. Mais donc...
Le milieu du jour, on peut le dire un peu avant.
Ah oui. Un peu avant 8h du mat ou un peu après à 21h, quoi.
Même les lettres, hein, moi.
C'est tout quand même.
Je rigole, mais c'est vrai que c'est un peu. Mais vraiment, je me dis, c'est marrant que c'est proche, même non, très concrètement, les prêtres ont exactement le même problème. Hein, c'est assez compliqué de trouver le temps.
Ouais.
Alors, moi, ma solution, c'est de dire en marchant, souvent, comme je me dis, bon, ben, je marche, je prends. Mieux marcher que prendre les transports en commun, et je trouve que en plus ça va bien avec la prière des psaumes, ouais. D'avoir un mouvement corporel. Mais on n'a pas la vérité des heures aussi strictement que les bénédictins. Mais d'un autre côté, je me dis c'est un peu moral. Les gars qui quittent le monde, il faut bien qu'ils aient un bonus par rapport à nous. Donc c'est vrai que parfois c'est la galère. Hein.
Oui, mais en fait, moi j'ai entendu beaucoup de moniales dire qu'en fait c'était très exigeant pour elles parce que. Finalement, il faut arrêter tout le temps.
Ouais.
Et qu'en fait, elles sont tout le temps dérangées.
C'est exactement ce que dit ma sœur.
Ouais, c'est ça. On est tout le temps dérangées.
Il y a la cloche.
Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est pas si simple non plus pour elles. En fait, je pense que c'est jamais simple. Mais en fait, c'est la question de la fidélité. La fidélité, c'est jamais simple. Mais en fait, quand on s'y engage, il y a quelque chose de beau. En fait, voilà. De même que. Parfois, on n'a pas envie. Enfin, voilà. Mais parce qu'on l'a choisi, parce qu'on l'a promis, alors voilà, il y a une joie. Il faut croire qu'une joie sera donnée. Peut-être pas tout de suite, mais... Non, mais il y a une vraie joie dans la fidélité. Quand on voit un couple qui est en grande difficulté et qu'ils arrivent à tenir et que finalement, les choses s'apaisent, etc., bah, en fait, il y a une vraie joie, mais il y a eu un combat. Bah, il y a un combat aussi pour nous, en fait. C'est plus facile pour moi de dire que j'aime le Christ que de prier la liturgie des heures, en fait. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est... Il y a quelque chose de parfois un peu crucifiant aussi, dans cette prière. Ouais.
Est-ce que les béguinages, comme aux Pays-Bas ou en Belgique, c'est un peu la même idée ? Est-ce que c'était des...
Mais je crois que les béguinages, je crois que c'est pour les veuves. Enfin, c'est pour des...
Ah, c'était pour les veuves.
C'est pour des veuves, je crois. Et donc, il y a l'ordre des veuves consacrées. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Paris, mais il y a des veuves consacrées. Ouais. Bon. Je crois que c'est ça.
C'est le béguinage, au début, c'était le... Ça fait partie de la dévotion moderne. C'est... Comment on s'appelle ? C'est Groot, là, c'est quoi son prénom ? En fait, c'est pas forcément des femmes âgées, hein, mais des veuves, mais l'idée, c'était dans un contexte où la vie... monastique, c'était au 14e siècle. La vie monastique paraissait, donc c'est pas facile, hein, 14e. Ça attirait moins. Il y avait des gens qui voulaient à la fois se consacrer à Dieu, avoir une vie de prière réelle, mais beaucoup plus souple que chez les cisterciens, des trucs comme ça. Donc il y avait les bégards et les béguines, où en fait c'était des gens qui, alors là, il n'y avait même pas de rite, je pense, il n'y avait pas de rite de consécration. Bon, l'évêque, c'était libre initiative.
Comme des vœux privés.
Il se fait voir un peu comme des vœux privés.
Comme
voilà.
Des vœux privés, ouais.
Mais après, bon, il y a eu. Ça a eu une histoire un petit peu compliquée, puisqu'il y a eu. Ils sont un peu. Il y a pu avoir des mouvements un peu exaltés, il y a eu des choses comme ça. Donc c'est. Par contre, les veuves, alors ça, c'est comme les vierges, en fait, c'est la vie consacrée dans l'église, elle était d'abord féminine. Mm. Et elle a vraiment ce double visage des femmes, enfin, des femmes, oui, des femmes veuves, ils ne sont pas forcément âgées, mais qui ne se remarient pas, et puis, effectivement, des. C'est des gens qui étaient femmes qui ne se marient pas du tout. Là. Mm. Et l'ordre des veuves, on en parle des épîtres pastorales, hein, le premier à Timothée, le deuxième à Timothée. Ils donnent des conseils précieux sur les. savoir qui admettre, il ne faut pas prendre une meuf qui est trop jeune, elle risque de vouloir se remarier, tout ça, vous êtes trop bavarde et tout. C'est Serge qui dit ça en fait.
Vous avez évoqué Monseigneur Petit qui parlait de vous comme de son bras gauche, ouais. Ce qui vous a dit. Mais du coup, est-ce que l'évêque vous, peut vous confier des missions, ouais. Autre que le fait de prier, etc.
Ouais, alors en fait, on est au service de l'Église et donc concrètement, ça doit quand même se dire dans notre vie. Alors, à Paris, Monseigneur Petit, il a fait le choix de dire que les vierges consacrées, il leur demande de s'engager dans leur paroisse. Voilà, donc moi je suis de Saint-Germain-des-Prés, donc je suis engagée à Saint-Germain-des-Prés. Mais il y a d'autres diocèses dans lesquels les vierges consacrées, du coup, n'exercent plus un métier profane, mais elles sont, elles travaillent pour le diocèse, en fait. Donc là, il les nomme à l'endroit où il pense qu'elles pourront porter du fruit. Mais, donc il y a un peu ces deux choses-là. À Paris, je pense que ce serait ingérable. Quand il y a 10 vierges consacrées dans un diocèse, je pense que l'évêque, quelque part, a le temps de les connaître et donc aussi de pouvoir leur confier des missions. À Paris, ça, pour le coup, c'est pas du tout le cas.
Encore un point commun avec les prêtres, tiens. Mais je ne
les
connais pas
à Paris, je ne les connais pas. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, moi, je suis très heureuse en fait, d'être au service de l'Église dans ma paroisse. Voilà, je pense que c'est...
Oui, bon, vous êtes un peu... Puisque vous ne pouvez pas être directement au service de l'évêque de manière très concrète, au service du curé...
Alors non, parce qu'en fait, autant l'évêque est mon supérieur, autant mon curé n'est pas du tout mon supérieur.
Évidemment.
Ça, c'est vrai.
Par exemple, l'évêque pourrait très bien dire, je sais pas...
Mais il pourrait très bien me dire qu'il a besoin d'un truc.
Quelqu'un a besoin d'une présence d'église, je sais pas, dans une... Je sais pas, mettons que... Une ONG liée, enfin pas catho, un truc comme ça, mais j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui donne un nouveau souffle, il pourrait avoir mon avis, hein, ouais, si la personne est d'accord. Il va
pas.
Mais il pourrait très bien lui dire, bah, je te donne une mission pendant 3 ans, il faut que tu remontes, je sais pas, quoi, ou l'aumônerie, je sais pas.
Mais il se trouve qu'à Paris, il y en a qui bossent vraiment pour l'église, qui sont dans les aumôneries d'hôpitaux, qui sont profs au Bernardin, qui sont. En fait, voilà. Mais
un truc précis.
Précis, voilà. Mais voilà, c'est pas ce qui est le plus fréquent.
On n'arrête pas de mettre en parallèle l'ordre des vierges, l'ordre des.
Des prêtres.
Des prêtres. Et en même temps, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose du signe de la sponsabilité qui est celle de tout baptisé avec de l'âme avec le Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose, à votre avis, d'inénarrable qui est propre à la virginité consacrée féminine dans cette et je fais du coup y compris la distinction avec la vie consacrée masculine. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est quand même vraiment dans la vie spirituelle, dans le rapport à Dieu, quelque chose qui ne sera pas exactement partagé de la même façon que même d'autres consacrés à ce mystère si incarnat?
Je suis pas sûre de très bien voir ce que tu veux dire. De fait, je pense que pour une femme, c'est plus facile la question de la sponsabilité est plus évidente pour une femme que pour un homme vis-à-vis du Christ. Non, mais c'est vrai. En fait, de se reconnaître épouse du Christ, pour un chrétien qui dit moi je suis, enfin l'Église c'est moi, c'est nous. De quelle façon est-ce que je suis épouse du Christ? C'est plus difficile pour un homme, je pense, d'envisager les choses, enfin de se rendre compte de ce point-là. Je vois pas très bien en fait quelle était ta question en fait.
Parce que finalement il y a quelque chose dans le rapport à Dieu ouais. Qu'un prêtre va vivre. Que bon voilà, on peut aussi parler du sacerdoce débaptisé, mais c'est pas non plus du même ordre de formation.
Ouais.
Et donc, bon, il y a quelque chose qui existe spirituellement, quelque chose que les personnes qui ne sont pas prêtres ne connaîtront pas.
Ouais.
Est-ce qu'on peut parler d'une spécificité dans cette incarnation de la virginité consacrée que soit des baptisés qui ne sont pas dans la virginité consacrée, soit simplement qui ne sont pas les femmes ne connaîtront pas?
Probablement. Parce qu'il y a une forme. Enfin, en fait, quand tu es un époux, de fait, tu es consacré à Dieu parce que tu es baptisé. mais tu n'iras pas les choses de la même façon, donc il y a quelque chose que tu ne connaîtras pas. Enfin, d'être unis sans partage au Christ, ça tu ne le connaîtras pas. Mais je ne sais pas comment ça se vivra.
Il y a tout, c'est une question compliquée en théologie.
C'est compliqué. Hein.
Tu vois, à mon avis, il y a quand même deux aspects qu'il faut bien tenir ensemble. C'est le côté d'une réalité mystique qui est vécue, alors surtout dans la tradition carmélitaine, hein, avec Sainte Thérèse d'Avila puis Saint Jean de la Croix, où on parle du mariage mystique comme le sommet de l'union à Dieu. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, homme ou femme. Et puis, il y a le côté du signe. Alors, un signe, c'est toujours corporel. Vous voyez, c'est comme un sacrement. Un sacrement, c'est pas simplement une grâce. Une grâce, c'est pas forcément corporel. Un sacrement, c'est une grâce qui se donne une visibilité. Alors là, quand on parle de la sponsalité en termes de signe, c'est pas la même chose que la sponsalité en termes d'union mystique. Vous voyez, quand on dit l'âme, parce que, heureusement, le mot âme est féminin en français, donc on peut dire l'âme est épouse du Christ, mais c'est pas du tout pareil, vous voyez. Alors moi, il me semble, hein, ce que vous disiez au début, moi je trouve ça assez convaincant, c'est le fait que s'il y a quelque chose que la Vierge consacrée, pas simplement vit mystiquement dans le secret de sa prière, mais qu'elle représente même d'une certaine manière inconsciemment, simplement par le fait qu'elle est présente, incarnée, c'est la dimension sponsale de l'Église. C'est ça dont elle est signe, qu'on le veut, enfin qu'on le veut ou non, on le veut, mais ça se fait, c'est d'abord dans l'ordre corporel, cette histoire-là. C'est très différent de dire, mais j'ai bien fait oraison, j'ai atteint le quatrième degré de mariage mystique. Vous voyez, c'est vraiment. On prend le même mot de mariage, mais c'est deux réalités très différentes. Une qui est vraiment quasi sacramentelle, même si ce n'est pas un sacrement. Et l'autre qui est mystique, faute de meilleurs mots. En tout cas, c'est clair qu'un prêtre, c'est pas du tout ce qu'il représente. Un prêtre, lui, il est signe du Christ ressuscité, agissant dans l'Église, à travers son corps ressuscité, donc à travers les sacrements. C'est pas du tout la même signification qu'une Vierge consacrée.
Moi, j'avais une question un peu concrète, juste de détail, mais en fait, les dernières questions m'ont un peu répondu. Mais donc, les Vierges consacrées, c'est exclusivement féminin. On ne peut pas être un homme Vierge consacrée.
Non.
Parce que comme il n'y avait pas trop d'accord au début, je n'avais pas très bien compris.
Non,
c'est une très bonne remarque.
Il paraît qu'il y a des hommes qui demandent.
C'est comme ça, un élément dont on a vu qu'il était vraiment spécifique, alors que ce n'était pas l'équivalent du prêtre en femme.
Pas du tout, non.
C'est pas le diacre.
Comment ?
C'est pas le diacre.
Le diacre, effectivement.
Non, parce que le diaconat, on dit quand même que c'est le premier degré du sacrement de l'ordre, donc c'est autre, encore autre chose. Il n'y a rien à faire, ça c'est l'ordre des corps, on a du mal à accepter ça aujourd'hui. Notre corps de chair parle avant que nous décidions. Donc plutôt, c'est une parole que Dieu inscrit dans notre corps. Et qu'on soit homme ou femme, notre corps ne signifie pas la même chose.
Chez les moines, il peut y avoir celles qui sont d'abord vierges et celles qui sont d'abord religieuses, c'est ça
Celles qui reçoivent la consécration des vierges ou celles qui reçoivent la consécration monastique et consécration religieuse.
Est-ce que, du coup, je ne sais pas si vous avez vu le film Thérèse d'Alain Cavalier, enfin sur Thérèse de
Non,
mais en tout cas, au début, parce que enfin, c'est un super beau film, qui est sur la liste du Vatican des films à regarder. Donc, je sais ça. Vraiment, en fait, il y a sa cérémonie de consécration religieuse.
Non. C'est encore une bonne remarque, mais ce que disait Marie-Capucine tout à l'heure, attention, ça n'est pas du tout la majorité, à mon avis, des monastères aujourd'hui. Je savais même pas d'ailleurs que Jouarre faisait encore ça. À mon avis, c'est un reliquat. Voilà, mais dans la plupart des monastères, c'est juste la consécration monastique.
Non. Dans la plupart des à Solesmes, les professes solennelles sont vierges consacrées.
Ah bon, alors ça,
et
c'est...
les professes perpétuelles reçoivent la consécration monastique.
C'est vraiment bizarre.
Ouais.
En tout cas, c'est pas général. C'est
en fait, oui, du coup, en fait, celles qui sont. Alors, elles
mais c'est vrai, je trouve que c'est bizarre parce que ça fait se rencontrer, mais ça explique pourquoi est-ce que dans la consécration monastique, les femmes moniales, on a récupéré une symbolique qui me paraît, en fait, pas tellement monastique, mais caractéristique des vierges consacrées, qui est le fait qu'effectivement, on fait les vœux, on est allé tout de même habillé en robe de mariée, je crois, le truc, on a l'impression d'assister à un mariage quasiment.
Moi, je veux pas du tout une robe de mariée. Hein.
Et ma soeur, quand elle a vu qu'il y avait bénédictine, elle n'a pas du tout eu ça. Hein. Je peux vous dire que c'était plutôt sobre. Hein, quand même. Juste, comme moi j'étais bien placé, puisque j'étais du côté du cœur, j'ai eu pendant l'espace d'un instant, j'ai pu voir. Je l'avais pas vu depuis. J'avais pas vu ses cheveux depuis 20 ans, enfin, depuis 10 ans. Elle avait les cheveux mais massacrés, je me dis, mais elle les coupe elle-même. Ça a duré l'espace d'un instant. Et vous voyez, c'est pas la même symbolique. Hein. Moi, je
non, c'est pas la même symbolique. C'est
un peu bizarre. Hein. Qu'à un moment donné, pour récupérer, pour donner un cadre de vie aux vierges consacrées, on va dire, bon, allez, on va vous fourguer, on va vous foutre dans un monastère, ça simplifiera les choses. Je peux le comprendre, mais je dirais pas, pour moi, une vocation de quelqu'un qui veut être bénédictine, c'est vraiment pas la même chose que de vouloir une vierge consacrée. Je trouve que c'est bizarre comme...
Bah oui, moi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'elles peuvent...
Sauf si c'est un reliquat de l'histoire, bon, c'est comme ça que je le comprends.
Non, parce qu'elles ont le choix. Ah ben, à Jouarre, elles ont le choix.
Ouais, mais pourquoi
ailleurs c'est vraiment une histoire de degré, en fait, vous savez, entre les sœurs qui peuvent sortir et les sœurs qui peuvent pas sortir.
Et moi, j'ai déjà entendu, je me souviens, c'est une ancienne normalienne qu'on avait vue là un week-end de rentrée, c'était où, je sais plus, cistercienne, qui avait dit, mais moi, je suis pas... Elle dit, j'ai des sœurs à qui ça parle beaucoup. Elle dit, mais moi, la symbolique sponsorée avec le Christ, pas du tout mon truc.
Pas du tout, ouais.
Pas du tout sa spiritualité. Elle prend le règle de Saint-Benoît... C'est plutôt les coups de bâton pour ceux qui sont en retard à l'office. C'est pas tellement dans les... Non, mais c'est très... Hein, c'est les coups de bâton. Hein, Alors, je sais plus ce qu'il y a. Oui, on a le droit de boire. Il faut pas boire du vin ou...
Si, il faut boire du vin.
Saint-Benoît dit qu'on peut picoler. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est ce que Mais ça m'étonnerait pas que justement, depuis Vatican II, si oui, Vatican II a essayé de retrouver un peu, dans plein de domaines, le charisme fondateur de la vie religieuse. Alors, je ne suis pas hyper compétent, mais ça m'étonnerait pas que des ordres féminins qui avaient un peu ces rites de mariage qui ressemblaient aux vierges consacrées au moment des vœux monastiques ou religieux, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui les laissé tomber pour retrouver un truc qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on faisait chez les hommes, comme c'est des ordres où il y a. Par exemple, une dominicaine, je ne suis pas sûr que maintenant on lui colle une robe de mariée quand elle fait ça, je crois pas.
Est-ce que vous avez des consignes vestimentaires ou pas?
Non. J'ai eu qu'une consigne, c'était celle de mon dernier frère, qui m'a dit est-ce que tu vas mettre des jupes immondes? Donc voilà, mais c'est la seule consigne que j'ai eue. Donc on a fait un deal, je lui ai dit si jamais un jour tu me vois m'habiller comme ça, préviens-moi. Mais non, on n'a pas de consigne vestimentaire. Et même, on ne porte pas notre voile, ce n'est pas l'usage, en fait. Mais il y a des vierges consacrées qui sont en habit religieux. Souvent parce qu'elles ont eu une expérience de vie religieuse avant et que du coup, ça a du sens pour elles. Mais ce n'est pas du tout l'usage. Voilà. Et Monseigneur Petit a demandé à ce que dans les célébrations diocésaines, il y ait une visibilité des vierges consacrées. Donc on doit porter une cape blanche pour les célébrations diocésaines. Mais c'est très nouveau, en fait, ça fait un an ou deux. Voilà, sinon il n'y a pas du tout de signes vestimentaires.
J'ai une question par rapport à Marie, parce que Marie qui est à la fois signe de l'Église et vierge, vous êtes consacrée à Dieu dans la virginité avant même de recevoir sa vocation de mère de Dieu. Est-ce qu'il y a... Enfin, est-ce que ça crée un lien particulier à Marie aussi?
Je pense que pour une Vierge consacrée, la Vierge Marie, c'est quand même le premier modèle de la virginité consacrée. Et en fait, comme elle, on est appelé à être Vierge, épouse et mère, en fait. Voilà. Vierge comme la Vierge Marie, épouse du Christ, et elle, en fait, elle n'est pas épouse du Christ, mais enfin, si, quand même.
Bah oui, sinon Saint Jean c'est clair.
Oui, dans Saint Jean c'est clair, mais enfin c'est quand même.
Elle est mère de tous les disciples.
Elle est mère de tous les disciples.
C'est vraiment toute l'évocation ecclésiale.
Voilà, donc c'est le lien à Marie. On dit qu'un prêtre qui n'est pas lié à la Vierge Marie, en fait, c'est probablement qu'il n'est pas appelé à être prêtre. Mais en fait, je pense que pour les vierges consacrées, si on n'a pas Marie pour modèle, alors on ne pourra jamais être vierge consacrée, enfin. C'est quand même elle, la Vierge des Vierges. Enfin, c'est elle qui le vit de façon parfaite et qui donc nous permet de le vivre, voilà, d'être de plus en plus à son image, en fait. Voilà. la façon d'accueillir le Christ, dans la façon de donner le Christ au monde, dans la façon de...
Encore des questions, sinon moi j'en ai une petite. Souvent quand vous avez pas tellement de signes extérieurs, du maire général, les gens autour de vous, par exemple au boulot, mais même ailleurs, ils sont au courant ou pas, ou des fois vous leur, c'est vous qui leur dites, ou ils,
alors je ne commence pas par le dire. Je commence pas par le dire. Au boulot, je ne commence jamais par le dire, oui, ça, c'est sûr. Mais ça vient toujours à un moment ou un autre, sauf si je vois que le milieu est complètement hostile. Mais en fait, en général, l'hostilité tombe. Dans le milieu professionnel, il faut être hyper compétent si on veut pouvoir dire un truc comme ça. Sinon, on a l'air d'être la cateau de service, quoi. Non, c'est vrai, en fait.
Incompétent.
Non, mais vous voyez ou pas ce que je... Ouais. Voilà. En fait, de fait, ça interpelle les gens parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose que je ne vis pas comme eux. Et donc, voilà. Et je pense que, comme Vierge consacrée, on a une disponibilité particulière. Mon cœur, il est donné à tous. Il est donné au Christ et du coup, il est pour tous. Et donc, il y a une disponibilité qui n'est pas celle d'une femme mariée ou avec des enfants qui a le souci des affaires de sa famille. Enfin, c'est normal. Donc, mes patients, il y en a beaucoup qui se doutent de quelque chose et qui finissent soit par me poser la question parce qu'on a fini par avoir des liens un peu plus que juste des liens de patient-pharmacien. Mes collègues, certains le savent, d'autres pas. Ça dépend un peu de la relation avec chacun. Mais je ne suis pas du tout hostile à le dire, en fait. Voilà. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que quand on parle de la virginité consacrée, en général, chez les cathos, ça commence par faire rigoler. Et puis, ils prennent un air un peu gêné. Ils me disent, t'es sûre que tu vas dire à tout le monde que t'es vierge consacrée, tout ça. Voilà. Et chez les gens qui sont éloignés de l'Église, en fait, ils le comprennent très bien comme chemin de vie. Chacun fait des choix. Pourquoi pas, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est très étonnant. Et donc, en fait, on peut vachement discuter avec eux. Et finalement, il y a plein de choses qui passent parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Et donc, voilà. C'est parfois plus difficile avec des gens qui sont, par exemple, de tradition chrétienne, mais qui ont un peu qui ont tout abandonné ou qui n'ont jamais été catéchisés parce qu'eux, ils pensent savoir. Voilà. Ouais, et une fois que c'est... Enfin, quand c'est dit, c'est assez étonnant parce que du coup... ça libère plein de choses, ça me libère une parole pour plein de gens, en fait.
Ça transforme un peu la relation.
Ça transforme les relations, ouais. Les gens vous demandent souvent de prier pour eux, ou ils vous confient des situations délicates.
Ouais. Ça, c'est, je trouve, enfin, les prêtres, on a aussi beaucoup ça, mais je trouve que c'est toujours très beau que les gens, des fois, nous disent des trucs... ils portent des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, puis ils ont des choses lourdes à porter, ils nous les confient.
Ouais.
Ça, je trouve que c'est bien de parler d'intercession, hein, dans la prière, vous avez louange. Pour moi, la consécration des dits, la formule, c'est la louange de Dieu.
Et d'intercéder pour le salut.
D'intercéder pour le salut.
Pour le salut du monde.
D'intercession.
Ouais. Moi, l'autre jour, dans une pharmacie dans laquelle je travaille depuis 2 ans, enfin, je vais souvent dans cette pharmacie depuis 2 ans, une collègue qui m'a confié tous ses soucis qui sont gravissimes. Et en fait, elle me l'a confié un peu derrière, mais enfin, il y avait la bosse qui était là et elle a entendu. Et 2 jours après, elle me dit « C'est étonnant, Mariam, elle m'avait jamais dit tout ça, ça fait 10 ans que je travaille avec elle. » Donc j'ai entendu, mais bon, j'ai fait celle qui n'avait pas entendu. Voilà. Et puis, elle me dit « C'est étonnant quand même qu'elle vous ait confié tout ça. » Parce que j'ai déjà remarqué qu'il y avait plein de patients qui vous confient des trucs. J'ai dit « Ah oui bon. !» Et le lendemain, j'arrive pour travailler, et à la pause déjeuner, elle me dit « Je savais 2 minutes parce que j'aimerais bien qu'on discute un peu. C'était vachement beau, en fait. Ouais, moi je suis assez bluffée de ça. Mais.
Parce que les gens, ils ont confiance en nous malgré tout ce qu'on entend.
Ouais.
Dans ce qu'on lit dans les journaux et tout ça.
Et du coup, quand je dis à quelqu'un oui, je vais prier pour toi, c'est pas qu'un mot, en fait. Donc, ça c'est quelque chose, mais ça c'est vrai pour tout chrétien, en fait. Quand les gens vous demandent quelque chose, vous demandent de prier pour eux, mais il y a un vrai service. Et je pense qu'on peut dire, enfin, c'est l'Église qui nous appelle, mais en fait, on est le fruit aussi de la prière de l'Église. Toutes les personnes consacrées, on est le fruit de la prière de l'Église qui a demandé au Seigneur des personnes consacrées, des prêtres, tout ça. Et donc, moi, le jour de ma consécration, j'ai été très étonnée parce que je me suis sentie complètement portée par la prière de l'Église. Très, très étonnant. beaucoup de gens que je ne connaissais pas, mais je savais que leur prière faisait que c'était pas pour rien que j'étais là, à cet endroit-là, ce jour-là.
Ouais. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Profitez, hein, parce que là, on est gâtés. Alors, profitez. Sinon, merci beaucoup, Marie-Capucine.